Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette édition spéciale jeunesse qui sera consacrée à Force du Destin, un concept incluant des clips sur YouTube, des petits romans chez Bibliothèque Rose, des comics, 5 comics le regroupés en un album chez Delcourt, et enfin quelques produits dérivés. Je suis Francis Pelletier, et aujourd'hui pour discuter de tout ça, qui de mieux qu'une personne du public cible, j'ai nommé ma grande fille de 12 ans, Tamara Pelletier. Bonjour Tamara.
Bonjour.
Donc, comme les auditeurs ne te connaissent pas encore, si tu commençais pour te présenter, par nous dire ce qui t'attire dans l'univers de Star Wars.
Ce qui m'attire dans l'univers de Star Wars, c'est que, surtout maintenant, ils rajoutent de plus en plus d'héroïnes. Mm-hmm. C'est rendu les personnages principaux des films. Mm-hmm. C'est aussi le côté fantastique et humoristique, là, humoristique surtout dans les derniers films. Là,
ouais.
Ils rajoutent plein d'humour. Puis le côté fantastique, ben, j'aime vraiment ça.
Mm-hmm. Tout ce qui est plus la force, plus les pouvoirs, etc.
Oui.
Et ben, finalement, histoire de dresser un peu un topo là, de tes préférences au niveau personnalité et compagnie, si je te demandais dans tous les films, lequel serait ton préféré?
Rogue One,
sans hésiter?
Oui.
Ensuite, ta série télé préférée?
Résistance.
Ouais, la nouvelle série Résistance?
Ouais, elle est vraiment bonne.
Ouais, beaucoup d'humour,
oui.
Encore une fois.
Oui.
Ensuite, en littérature, quel serait ton roman préféré?
Étoiles perdues et Soulèvement rebelle.
Ouais, à égalité les deux?
Ouais.
Ouais, deux excellents
vraiment
romans.
Très bon.
Vraiment, effectivement, Étoiles perdues.
Un petit peu plus Étoiles perdues.
Ouais.
Oui, c'est un roman que j'ai vraiment, vraiment aimé. Mm-hmm. Je l'ai lu vraiment rapidement.
Mm-hmm.
J'avais vraiment aimé.
Ouais, Étoiles perdues, ce qui est intéressant, c'est qu'on traverse presque toute la guerre civile.
Ouais.
Hein? On a même des éléments sur la bataille de Jakku. Donc, ouais. On n'a quand même pas tant de stock sur Jakku, là, sur la fin vraiment de la guerre. Mm. Donc, dans Étoiles perdues, on a quelques éléments qui sont, entre autres, repris un petit peu dans la campagne du jeu Star Wars Battlefront.
Ouais.
Donc, certains éléments là, qui reviennent. Soulèvement rebelle, un autre excellent roman là, que ceux qui ne le connaîtraient pas, sur la jeunesse de Jin, qui avait aux côtés de Saw Gerrera et après ça, un peu autonome. Parce que quand on découvre Jin dans Rogue One, elle est dans un camp de travail de prisonnière de l'Empire.
Ouais.
Donc, comment elle est arrivée là? Fait que c'est ce qu'on découvre dans Soulèvement rebelle.
Oui.
Pour terminer, une BD préférée?
Ben, j'ai pas vraiment de BD préférée, mm-hmm. mais j'aime bien les deux séries de Darth Vader.
Et ouais, d'excellentes BD.
Oui.
Comme à l'habitude, on remercie Mintinbox, Star Wars Holonet, Citlan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction et le Space Trash Show. Sur ce, on va passer en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Les choix que nous faisons, les actions que nous menons, les moments épiques comme les moments insignifiants font de nous des forces du destin.
Donc, si on commençait par expliquer le concept, donc Force du Destin, contrairement à d'autres contenus Star Wars où on va dire, bon, il y a le film et ensuite il y a des produits dérivés, il y a des livres, des comics, etc. Là, c'est vraiment tout un concept fait ensemble. Même si plusieurs ont reproché à Disney et à Lucasfilm que comme quoi c'était un concept uniquement pour vendre des jouets, reste que l'objectif officiel, je pense, était quand même très sensé, qui était d'aller chercher un nouveau public pour Star Wars, à savoir les jeunes filles comme toi, Tamara, un public qui, même s'il y a quand même beaucoup de personnages féminins forts dans Star Wars, ça reste que c'est un univers quand même un peu plus masculin. Il y a un effort clair là, plus récemment pour le féminiser un peu. Mais on se rappellera dans les années, même avant ta naissance, Tamara, que les femmes qui étaient fans de Star Wars étaient peu nombreuses. Mais c'est ça, la série Clone Wars avec Ahsoka a aidé aussi, et Padmé, etc. Le personnage de Jyn maintenant, le personnage de Rey, évidemment, et Leia, dès le début, qui a toujours été un personnage féminin très fort. Le but de Force du Destin, c'est vraiment d'aller chercher les au niveau enfants, les jeunes filles. Tout tourne autour des héroïnes de Star Wars, cette fois-ci. Aux commandes, au niveau de l'histoire, on a une dénommée Jennifer Mouraud. Donc, c'est en 2016 là, que ça a été annoncé qu'il allait nous arriver avec une petite série sur YouTube. Évidemment, à l'époque, c'était pas clair ce que ça allait être encore.
Ouais.
Donc, c'est certain qu'on parle pas d'un remplacement d'une série suite à Rebels. T'sais, Rebels faisait un peu la suite de Clone Wars. Là, on n'est pas du tout là-dedans. C'est pas des épisodes non plus qui se suivent. C'est toujours des histoires individuelles.
Ben, à part deux, là.
Ouais, effectivement, les deux premiers épisodes, je pense, c'était vraiment un après l'autre. Mais sinon, c'est disséminé dans toute la timeline de Star Wars. Donc, c'est ça, des petits épisodes courts. Liés à ça, toute une série de romans, de comics, de jouets. Ça, on va en parler un peu plus tard. On va commencer par parler plutôt de l'aspect YouTube. Ça a parti fort en termes d'audience et de popularité. C'est certain qu'au début, il y avait l'intérêt de savoir ce que c'était. Le public était quand même assez ciblé, ce qui fait que ça a vite chuté. Beaucoup de gens n'aimaient pas, par exemple, au niveau graphique. Toi, Tamara, au niveau des dessins, est-ce que tu aimais plus ça? Est-ce que tu aimais moins ça?
Ben, je trouvais que c'était bien, mais certains personnages avaient de l'air très large.
Élargi,
oui,
ouais.
Oui, les Stormtroopers sont comme vraiment très, très larges.
Large d'épaule, là.
Ouais,
puis, ouais. Effectivement, ben ça, c'est des choix artistiques, là, des
dessinateurs.
Ouais,
mais c'était quand même bien réussi, je trouvais, les graphiques.
Mm-hmm. Ben, c'était simplifié. En même temps, c'est ça, c'était de quoi de produit quand relativement à vitesse, à probablement un petit budget aussi. J'ai pas réussi à avoir exactement le budget rattaché à la production de tout ça. On notera que, entre autres aussi qu'on a les... Quand même, là, en termes de qualité, sont allés chercher les mêmes doubleuses que dans la série Clone Wars et dans la série Rebels. Donc, par exemple, Ashley Eggstein, la plus connue, celle qui faisait Ahsoka Tano. On a, par exemple, Daisy Ridley qui joue Rey ou Felicity Jones qui joue Jyn Erso. Donc, les deux actrices qui sont revenues, dans le fond, prêter leur voix à leur personnage. Ça, c'est quand même bien au niveau continuité là, de retrouver les mêmes voix. Donc, on soulignera quand même cet effort-là. On précise, avant d'aller plus loin aussi, que tout ça, Force du Destin, même si ça s'adresse à un public plus jeune, c'est l'univers officiel. Donc, c'est canon. Donc, vous allez voir, plus tard dans l'émission, on va parler qu'ils ont recanonisé plusieurs éléments des légendes.
Ouais.
À la grande surprise de plusieurs, même. Je sais que ça avait choqué plusieurs personnes là, quand ça avait commencé. Mais tout ce qui se passe dans Force du Destin, même si ça s'adresse à un public plus jeune, c'est canon. Donc, il y a eu deux saisons de 16 épisodes chacun, donc un grand total de 32 épisodes. Comme je disais tantôt, ça ne se suit pas au niveau timeline, etc. On passe de l'épisode 7 au Retour du Jedi, à l'époque de Clone Wars. Les personnages parfois s'entrecroisent. Ça fait des drôles de situations qu'on n'aurait pas imaginées, par exemple, dans l'univers officiel, mais qui n'ont pas nécessairement un impact sur le canon. Donc, toujours des petits détails que ça vient ajouter au canon. Rien de grave, rien qui change. Une autre histoire ou des contradictions avec un livre ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Ça, c'est bien aussi, c'est ce qu'on aimait moins avant. La saison 1 débute avec les dunes de Jakku et je vais tout de suite nommer aussi le deuxième épisode, BB-8 et les bandits, parce que comme on disait tantôt, Tamara, c'était...
Les épisodes qui suivent.
Exactement, deux épisodes collés un après l'autre. C'était l'introduction aussi pour le concept de Force du Destin. Donc avant les livres, avant tout, c'est ces deux épisodes-là qui sont sortis et ça a été ça le coup d'envoi. Est-ce que ça a vraiment donné le ton? Moi, j'ai l'impression que non. Je pense que ça a... malheureusement refroidit l'intérêt de beaucoup et je le comprends parce que c'est vraiment pas les meilleurs épisodes de la série personnellement.
Non, en effet.
Dans les deux cas, pour résumer très rapidement, c'est Rey et BB-8 là, qui nous arrivent quelques petites aventures sur Jakku. Ensuite, épisode 3, on a l'évasion des Ewoks. On se retrouve à ce moment-là avec Leia, avec Wicket sur Endor qui combattent quelques Stormtroopers. Épisode 4, la voix du Padawan, donc cette fois-ci on se retrouve avec Ahsoka Tano qui tente d'arriver à temps à un rendez-vous avec Maître Yoda et Anakin, mais qui doit plutôt faire le choix de sauver des innocents là, d'une situation critique sur Coruscant. Épisode 5, le monstre de la base Echo. Celui-là, je l'ai trouvé intéressant comme vieux fan de Star Wars parce que ça fait référence à une scène coupée assez connue de l'Empire contre-attaque, donc de l'épisode 5, où est-ce que il y avait une attaque de Wampa dans la base Echo sur Hoth au début de l'Empire contre-attaque. Cette fois-ci, ben dans le fond, Chewbacca est même capturé par le Wampa. Donc, Leia et R2-D2 là, vont à sa rescousse. Ensuite, épisode 6, on a l'imposteur infiltré. Donc, Ahsoka et Padmé qui affrontent un gangster, Cloudit. Donc, une espèce là, qui, comment qu'on dit...
Qui peut se transformer.
Qui peut se transformer. Ouais, métamorphe, on va...
Ouais, quelque chose métamorphe. Comme ça.
Et si je ne m'abuse, c'est le même personnage que Ahsoka combattait déjà dans un autre épisode de Clone Wars.
Oui.
Je pense qu'elle participait à un cast là, avec
le bonhomme bleu, là.
Cad Bane, ouais, effectivement,
oui,
chasseur de crime, Cad Bane.
Elle se transformait en la bibliothécaire.
Et ouais, c'est ça, exactement. Donc, le même personnage que dans Clone Wars. Oui. Ensuite, on passe à l'épisode 7, l'étrangère. Donc, rien de... d'extraordinaire, Jyn Erso qui aide une petite fille qui se faisait harceler par les Stormtroopers. Quand on disait en début d'émission que les épisodes sont inégaux un peu, ben on en a un bon exemple là. Épisode 8, on a une rencontre intéressante, là, ça s'appelle l'attaque des chasseurs de primes, et on a à ce moment-là une Leia qui est encore diplomate officielle là, d'Alderaan, donc ça se passe avant Rogue One et l'épisode 4. Leia qui collabore avec Sabine, mais qui officiellement, là, avec des Stormtroopers, demande aux Stormtroopers de l'arrêter. Bref, un peu ce qu'on avait vu aussi dans un autre épisode de Rebelle, où Leia organisait une arnaque là, pour donner des croiseurs Hammerhead à la Rébellion.
Ouais.
Ensuite, l'épisode 9, la nouvelle recrue. Encore Sabine, mais cette fois-ci, on la retrouve aux côtés d'un autre personnage qu'on a vu quelques fois dans Rebelle, qui s'appelait Ketsu. Donc, une autre amie mandalorienne, on va dire, à Sabine, là, que Sabine essaie de recruter dans la rébellion. Épisode 10, on se retrouve avec Rey et Han Solo et Finn et Chewbacca à bord du Faucon.
Et BB-8.
Pendant l'épisode 7, et BB-8, oui. Pendant l'épisode 7, entre le moment là, où ils partent de Jakku et le moment où ils arrivent à Takodana, petite histoire, là, il y a un tracker dans le vaisseau et c'est Rey qui réussit à s'en débarrasser. Épisode 11, te former, je vais. Juste par le titre, on comprend qu'il est question de Yoda. C'est Ahsoka qui apprend à combattre avec ses deux sabres. Donc on comprend qu'avant ça, elle devait utiliser uniquement un. Elle combat au départ avec Anakin et ensuite avec Yoda, qui lui inculque un peu de sa sagesse. Ensuite, épisode 12, la parade du chasseur de primes. Élément étonnant, ce que j'ai trouvé original. Ici, on a une Padmé qui apprend à piloter.
Avec Ahsoka.
Avec Ahsoka, effectivement, dans le siège de l'autre pilote. En fait, c'est deux chasseurs de Naboo. Donc, Ahsoka qui donne des leçons de pilotage à Padmé. Évidemment, il leur arrive une péripétie quelconque. Épisode 13, allié de circonstances. On retrouve Sabine et on retrouve aussi Jyn. Donc, cette fois-ci, Jyn et Sabine se croisent, qui ne se connaissent pas. Et donc, Sabine doit convaincre Jyn de l'aider, d'aider la rébellion très brièvement. Ensuite, épisode 14, le festin impérial. Celui-là, c'est un de ceux qui a surpris le plus les gens, je pense, à sa sortie. Parce que ça vient, entre autres, canoniser le fait que les Ewoks allaient bel et bien bouffer les Stormtroopers.
Oui.
Un vieux sujet de débat là, sur des blogs de Star Wars, mais bref, que effectivement les prisonniers ou les morts... Stormtrooper, après la bataille d'Endor, elle va être bouffée par les Ewoks. Et là, bon, on a Leia qui veut pas que les prisonniers de guerre se fassent manger, alors que Han Solo et Chewbacca s'en contrefoutaient.
Ils s'en balancent.
C'est ça, ils s'en balancent. Mais Leia les envoie chercher de la nourriture pour donner aux Ewoks en remplacement des Stormtroopers. Et, ah, surprise, elle les envoie au camp de la Générale Syndulla. Donc, évidemment, on avait entendu dans Rogue One... sur haut-parleur, que la générale Syndulla était attendue, je sais plus où.
Ben, on avait vu plusieurs aussi indices qu'elle était dans le film. On a vu son vaisseau dans la grande bataille. On voyait Chopper se promener dans le hangar.
Exactement, ouais.
Et par contre, on voyait le Ghost poser.
On voyait poser, puis on le voyait dans la bataille.
Ouais.
Par contre, à Rogue One, on était à l'époque du début de la rébellion. Là, on est sur Endor après la bataille donc après le retour du Jedi. Ouais. On apprend donc que Hera, Chopper et le Ghost sont sur Endor après. On en comprend qu'ils ont fait toute la guerre civile aux côtés des rebelles.
Ouais.
Qu'elle est générale, comme on l'avait entendu là, dans Rogue One. À ce moment-là, c'était vraiment une nouveauté quand c'est sorti. C'est certain que là, rendu aujourd'hui, on a vu Hera quelques fois dans des comics. On l'a vu dans des comics de la série Docteur Aphra et de la série Star Wars aussi.
Oui.
À ce moment-là, quand c'était sorti, là, c'était vraiment une nouveauté.
Ouais.
On poursuit avec l'épisode 15, un Appabar envahissant. Épisode dans lequel Rey récupère l'espèce de vaisseau à 4 méga-réacteurs qu'on voit au début de l'épisode 7. Elle fait grâce à la grosse bestiole qui boit de l'eau là, au début de l'épisode 7, là, que Finn se garoche dans une fontaine à ses côtés. Épisode 16, donc dernier épisode de la première saison, on retrouve Ketsu. Dans le fond, Sabine, à ce moment-là, on peut dire, réussit vraiment à la recruter dans la rébellion. Là. On comprend que Ketsu travaille plus pour le Soleil Noir. Parce que jusque-là, elle avait toujours un symbole du Soleil Noir sur l'épaule, alors que là, à partir de là, elle a un symbole de la rébellion. C'est ce qui ferait le tour pour la première saison. Ensuite, si on passait aux épisodes de la saison 2.
Donc, pour la saison 2, l'épisode 1, nous avons Départ précipité. Un petit épisode sur Hera et Sabine qui volent une navette impériale. Épisode 2, Compagnie inattendue. C'est Ahsoka qui se joint à une mission que Anakin faisait avec Padmé. Puis à la fin, on croit que Ahsoka elle a des doutes sur le couple de Padmé et Anakin.
Ben, dans le fond, elle suspecte peut-être quelque chose.
Oui, beaucoup en fait. L'épisode 3, Navette en danger. C'est une histoire de Finn et Rose qui se passe pendant leur trajet pour aller au casino récupérer le décrypteur. Épisode 4, le marché de Jin. C'est Jin qui aide un jeune voleur à avoir de la nourriture et à apprendre une leçon. Épisode 5, cours et cours. C'est Rey en fouillant dans un vaisseau qui se fait attaquer par Tido, je crois, Tido.
Ouais, le même qu'on voit quelques fois dans d'autres épisodes.
Ouais. Épisode 6, chasse aux chasseurs de primes. C'est Leia, Chewbacca et R2-D2 qui se rendent voir Mas. C'est dans cet épisode-là qu'on apprend comment Leia réussit à avoir son armure pour aller sauver Han sur Tatooine.
Ouais, dans le fond, l'armure, le costume du chasseur de primes Bush.
Oui, aller délivrer Han de la carbonite.
Et, fait intéressant, il est sorti il y a quelques semaines à peine, un nouveau comics, la série Age of Rebellion. Un comics juste sur Leia, il y en a un sur chaque personnage, évidemment. Il y a Tarkin, etc. Et là, celui sur Leia vient justement rappeler cet aspect-là, qu'elle avait récupéré le costume de Bosch, qu'elle se sert, entre autres, là, dans ce comics-là. Qui n'est pas encore disponible en français, évidemment.
Épisode 7, La Bonne Voix. Là, on suit Maître Yoda et Luke. Maître Yoda donne une leçon à Luke, si on veut, pour qu'il apprenne à sauter d'arbre en arbre.
Ouais, ben c'est plus une leçon peut-être de concentration, quelque chose comme ça. C'est un prolongement de ce qu'on voit dans l'Empire Contre-Attaque. Donc,
oui,
c'est
son ça. Entraînement.
Parce que l'air de rien, on voit pas grand-chose de son entraînement dans l'Empire Contre-Attaque. Donc, c'est ça. Dans cet épisode-là, on voit toutes sortes d'acrobaties là, que Luke fait juste en se fiant à la force, on va dire.
Ouais. Et l'épisode 8, problème de Porg, c'est Rey qui voit son entraînement dérangé par des Porgs qui lui volent son sabre laser.
Ouais, ben encore une fois, on est dans le même thème. À chaque fois qu'il est question des Porgs, ils font un petit quelque chose de pas trop grave. On les aime. Bon, c'est ça. Ils sont adorables. Est-ce que t'en aurais un, Tamara? Si ça existait, là, est-ce que tu voudrais, au lieu des pinsons dans la cage, là, est-ce que t'aimerais qu'on ait des porcs?
Oui.
Mais là, et peut-être qu'il ferait autant de mauvais coups que dans les émissions puis dans le film.
Ah, peut-être. Faudrait le surveiller.
Ouais.
L'épisode 9, des recrues inattendues, c'est Chopper et Hera qui doivent partir en mission un peu pour aller détruire des chasseurs TIE. Et que Chopper invite deux Ewoks à se joindre à l'équipage du Ghost.
Mm-hmm.
Et que finalement, ils sont d'une très bonne aide, contrairement à ce que Hera aurait pensé.
Fait intéressant, les deux Ewoks, c'est une référence au téléfilm de 1984, La Caravane du Courage.
Oui.
Donc, en 1984, t'avais quel âge, Tamara?
J'étais pas née.
T'étais pas née? Ben, moi, je suis née cette année-là, fait que tu vois, c'est pas... moi aussi, je suis pas si vieux que ça. Mais bref, dans La Caravane du Courage, on avait même une espèce de princesse Ewok, oui. Donc c'est ça. C'est une des deux Ewoks là, qui combattent... dans le Ghost, qui sert des tourelles pour tirer sur des chasseurs tilleux.
Oui. Pour l'épisode 10, un malentendu monstrueux. C'est un monstre aquatique qu'on voit dans le premier Star Wars, je crois.
Dans l'épisode 1, ouais.
Ouais, et qui attaque Naboo. Et finalement, la reine Amidala, comme d'habitude, réussit à sauver la situation.
Mm-hmm.
Épisode 11, Histoire de l'or. Là, on retrouve Sabine et son frère.
Je pense qu'il s'appelait Tristan.
Ah oui, Tristan. Chose comme ça. Puis qui détruisent un poste impérial pour récupérer une statue.
Je suis pas spécialisé dans la culture mandalorienne non plus, là, mais je pense que c'est Mandalore le Grand, là, bref, dans la mythologie mandalorienne. Ouais, une énorme statue. Là. Très importante du point de vue culturel, selon Sabine.
Oui. Pour l'épisode 12, les Porgs, c'est... Là, on rejoint Chewbacca, qui est dans son vaisseau, qui fut interrompu dans son réparage, si on peut appeler ça comme ça.
Son réparage, c'est réparation, on va dire,
oui,
Tamara?
C'est réparation par des Porgs qui viennent lui voler des fils électriques.
Mm-hmm.
Puis, arrivé à son nid, ben, il découvre qu'ils ont besoin de leur... qui ont besoin de son aide pour ses enfants.
Ça fait beaucoup penser à une BD pour un public encore plus jeune qui était sortie il y a quelques années aussi, là, une histoire de Chewbacca et les Porgs.
Oui.
Où est-ce qu'encore une fois, c'est ça, Chewbacca commence par les trouver énervants, mais finit par les aider...
À se trouver de la nourriture. Épisode 13, Poursuite périlleuse, c'est Rey et Finn qui sont sur la base Starkiller. Puis on voit comment ils se ramassent dans la forêt.
Ouais, dans le fond, c'est comme une course-poursuite avec des Land Speeders, là, version Premier Ordre.
Des Snow Speeders.
Des Snow Speeders, bref, on peut les piloter dans le jeu Battlefront 2. Mais bref, ça a l'air de se passer, c'est ça, dans le moment, là, entre comment Finn et Rey, quand ils se sauvent de Starkiller, puis là, ils finissent dans la forêt, où est-ce qu'ils vont croiser Kylo Ren.
Épisode 14, le piège de Ewok. C'est Luke et Leia qui aident les Ewoks à arrêter le Gorax.
Oui, le Gorax. Est-ce que tu sais c'est quoi le Gorax, Tamara?
Je crois que c'est un très vieux personnage.
Ben, effectivement, c'est un personnage légende. Encore une fois, ça date du film La Caravane du Courage, en 84. C'était une espèce de géant monstrueux.
Je trouve que sa tête ressemble un peu à une chauve-souris.
Ouais, une espèce de tête de chauve-souris sur un gros corps là, de Yeti, on va dire.
Ouais.
Mais ce que j'ai trouvé intéressant de cet épisode-là, c'est qu'on découvre pourquoi il y a tous les pièges qu'on voit dans le Retour du Jedi.
Oui. En fait, donc, c'est pour stopper le Gorax, mais ça stoppe toutes les Stormtroopers, en fait.
Ouais, ben c'est ça. Dans la bataille d'Endor, ça sert aux rebelles puis aux Ewoks à combattre
les Stormtroopers,
à détruire des marcheurs, etc.
Ouais.
Ça commence que Luke et Leia se demandaient pourquoi il y a autant de pièges sur Endor dans la forêt. Fait qu'ils comprennent vite que c'est tous les gros troncs d'arbres prêts à être jetés contre les Stormtroopers. Ben là, en fait, c'était pour combattre le fameux Gorax de mon enfance. Parce que moi, c'est un téléfilm qui jouait à la télé quand j'étais petit.
Ouais. Pour l'épisode 15, une leçon désarmante. On retrouve Ezra dans son entraînement, accompagné d'Ahsoka, qui vient pendant son entraînement au sabre laser et qui lui fait découvrir sa force intérieure.
Ouais, encore une espèce d'entraînement de concentration, on va dire.
Ouais.
Ahsoka enlève le cristal à Ezra.
Oui, de son sabre laser, donc il se retrouve sans défense contre Ahsoka qui l'attaque avec son sabre. Épisode 16, Trahison. Là, on retrouve Hondo Naka avec Kira et l'autre droïde, que j'ai oublié son nom.
C'est IG-88, fameux droïde circulaire qui n'arrête pas de tourner.
Oui. Et Hondo est le droïde s'allie pour capturer Kira, mais finalement se retrouve...
Kira est plus maligne qu'eux.
Ouais, c'est ça. Se retrouve pris au piège par Kira.
C'est intéressant parce que c'est pas clair à quel moment ça se passe non plus.
Non.
Mais ils mentionnent l'Aube écarlate, donc oui, l'organisation de Darth Maul.
Oui, ils disent on pourrait te... parce qu'ils l'ont capturé, ils lui ont mis des menottes et lui ont dit tu vas valoir une jolie somme pour l'Aube écarlate.
Mm. Intéressant aussi de retrouver Hondo Onaka, personnage de plus en plus présent dans l'univers Star Wars.
Ouais.
Qui était un peu présent dans la série Clone Wars.
Ben, quand même, il revient dans beaucoup d'épisodes. Ouais.
Exact. Ensuite, assez présent aussi dans Rebels.
Il est vraiment présent.
Il se sert pas mal, puis il devient ami avec Ezra, ouais.
Il manipule.
Et on sait que c'est la grande vedette là, au niveau animatronique des parcs de Star Wars qui vont bientôt ouvrir en Floride, en Californie. Donc, animatronique, là, en tout cas, les premières vidéos qu'on a vues, c'est assez fantastique là, ce qu'ils ont fait avec ça. Donc, au global, c'est ce qui fait le tour des épisodes de la série en tant que telle, si on peut appeler ça comme ça, la web-série sur YouTube.
Ouais.
Au final, à ton avis, est-ce que ça a atteint sa cible d'aller intéresser les jeunes filles à l'univers de Star Wars?
Ben moi, je crois que oui, mais en même temps, non, parce que les épisodes sont quand même assez courts et ne sont pas toujours super intéressants.
Ouais, il y en a certains que c'est de la pure perte de temps.
Oui, mais pour moi, ça a dû en tirer quand même plusieurs...
Je dirais qu'ils sont peut-être aussi de meilleure qualité au fil des épisodes.
Plus
je pense
que ça avance.
Les deuxièmes moitiés de saison sont meilleures, puis la deuxième est meilleure que la première.
Oui, vraiment. Mais la première, c'était plus un test, je crois.
Ouais, ben c'est toujours un ajustement. C'est la même chose. C'était la même chose pour Clone Wars, pour Rebels, pour même Résistance, plus récemment. Ouais. Les premiers épisodes, c'est toujours un peu moins intéressant. Là, bon, c'est des clips. C'est pas une histoire qui se suit en continu. Donc, pourquoi ça a pris tant d'épisodes avant de trouver des histoires intéressantes?
C'est une bonne question. Je n'ai aucune idée.
Si je te demandais globalement une note sur 10?
5 sur 10.
5 sur 10, ouais?
Oui.
C'est... Pas plus que ça?
Non, c'est quand même assez court. La plupart des épisodes sont banals.
Mm-hmm.
Je trouve, il n'y en a pas beaucoup où on dit « Ah, ça c'est cool, puis c'est vraiment intéressant.
Mm-hmm. »
Les réécoute plusieurs fois. Mais c'est ça, là.
Puis au niveau graphique aussi, c'est relativement simpliste, là. C'est
oui.
Pas de texture, pas rien.
Ben, j'aime bien les héros, mais je trouve que tout ce qui est opposant sont mal dessinés.
Ah,
Luke
okay.
aussi, mais je trouve que tous les garçons, ils ont mis super large d'épaule. Je trouve ça vraiment bizarre que ça me tanne.
Ben, c'est bon, écoute, on va pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission, qui est de traiter... de la version novélisée, si on peut dire comme ça, de ces clips YouTube-là. Donc, dans sa version française, le tout est sorti chez Hachette, dans la collection Bibliothèque Rose, l'équivalent pour jeunes filles de Bibliothèque Verte, qui est un peu plus connue pour Star Wars. C'est sorti en 4 volumes, 4 tomes. Est-ce que tu nous donnerais les titres?
Oui. Le premier, c'est Le pouvoir de l'amitié. Le deuxième, Le pouvoir du courage. Troisième tome, Leia, princesse rebelle. Et quatrième tome, Les chroniques de Rey. C'est des livres qui sont pour 8 à 10 ans, puis c'est 96 pages.
Ouais, c'est un peu plus court que les bibliothèques vertes qu'on voit habituellement. Je pense à la série là, qui est encore en cours, là, Aventure dans un monde rebelle.
Oui.
Donc c'est un petit peu... Bien. Fait que des lectures rapides.
Oui, très rapides.
Ce qui est intéressant quand on lit les versions livres des films, c'est qu'il y a beaucoup de contenu supplémentaire. Est-ce que c'est le cas ici?
Pas tant. Je vous dirais que dans certains épisodes, dans plusieurs épisodes, on voit juste un petit peu plus de détails sur le début. Okay. Mettons dans un épisode...
Une introduction un peu plus.
Oui. Je prends l'exemple de celle-là où Ray va chercher des pièces dans un vaisseau. Mm-hmm. Ben, ça commence direct où elle est par terre en train de ramasser les pièces, tandis que dans le livre, ça va commencer où elle rentre dans le vaisseau, qu'elle monte tout le... qu'elle monte, qu'elle s'échappe de des pièges, puis qu'elle va les prendre, puis après ça, elle se retrouve...
Puis souvent, dans les novelisations, t'as le point de vue des personnages. T'es dans leur tête un peu plus, ce qui est impossible à l'écran. Est-ce qu'on a ça ici, ou c'est vraiment le point de vue extérieur tout le temps?
C'est le point de vue extérieur tout le temps.
Okay. Je pense aussi, ça se peut-tu que c'était Maz Kanata qui comptait les histoires ou quelque chose comme
ça? En fait, au début de chaque livre, on a une petite introduction qui nous explique, mais c'est Maz qui nous dit « Viens t'asseoir autour du feu, je vais te raconter des histoires. » Mm-hmm. C'est quand même assez intéressant, ça met dans le contexte, c'est fun. Alors maintenant, j'en ai un, mais ça dit « Message de la part de Maz ». Puis là, ça te demande si tu veux une autre tâche de thé, si tout ça. C'est vraiment très, très fun. Ça rajoute quelque chose au roman, je trouve.
Puis au niveau graphique, parfois dans les bibliothèques vertes, tu as quelques images au travers du récit. Est-ce que c'est le cas ici?
Oui. En fait, dans les livres, c'est plusieurs aventures. Donc, au travers d'une aventure, on a des images. Et à la fin de chaque histoire, on a une grosse image qui prend 2 pages. Avec le titre et, disons, la couverture un petit peu de cette histoire-là.
Ouais, à première vue comme ça, moi, je les ai pas lus, donc je me fie à 100% à ton analyse. Mais à première vue comme ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de visuels que, justement, dans les bibliothèques vertes, où est-ce qu'il va y avoir quand même très peu, là, tu sais, là, vraiment, on a des captures d'écran, on va dire, des épisodes ici et là, les personnages, parfois... Visuellement, c'est peut-être plus attrayant.
En même temps, je crois que, tout dépendamment des bibliothèques vertes, mais sont plus pour un petit peu plus vieux. Ils sont beaucoup plus épais, beaucoup plus gros.
Bref, la facture visuelle est quand même très jolie. Si on finissait la section un peu comme tantôt par une note sur 10, toi, tu y mettrais combien, toi qui les as lus tous les 4?
Je mettrais 4-5 sur 10.
Ah ouais, pas plus que ça?
Non. Je trouve qu'ils n'ont pas tant réussi leur objectif d'intéresser les filles. Puis pour les romans, ils auraient pu faire l'effort de faire d'autres...
D'autres histoires?
Oui, juste pour ça.
Ou des petits surplus, là, un peu comme dans les novelisations habituelles.
J'aimerais juste préciser quelque chose. Mm-hmm. Dans le 4e tome, c'est un livre qu'ils ont juste consacré à Ray.
OK. Est-ce qu'elle est présente quand même dans les autres?
Oui, elle est présente dans le 1, je crois bien. Seulement dans le 1, sauf que le 4, ils ont vraiment appelé le livre Les Chroniques de Ray.
Mm-hmm.
Et que c'est 3 histoires entièrement sur Ray. Bien sûr, on retrouve Anne et Finn qui sont sur la couverture avec elle. Mais il n'y a pas vraiment d'autres filles dedans.
D'autres personnes, d'autres héroïnes?
Non. Même sur la couverture, sur chaque couverture, c'est 3 héroïnes. Là, c'est juste Ray avec Anne et Finn. Puis c'est juste des histoires qui tournent autour d'elle.
Puis, bon, là, on s'entend que les livres s'adressent plus à un public. Tu le disais en début tantôt, ça dit 8 à 10 ans. Bon, là, toi, t'en as 12. En termes de niveau de lecture, pour les Québécois, tu dirais que c'est quel niveau scolaire?
Peut-être 3e, 4e année.
3e, 4e année.
Ça serait
comme initiation à la lecture, ça peut
être. Ça serait des romans qu'on pourrait amener dans une classe de 3e, 4e année très facilement lire ça.
Trouves-tu que ça ferait un beau cadeau pour une petite fille?
Oui.
Une amie à son anniversaire, une cousine, etc.
Oui.
Force du destin, donc 4 volumes disponibles autant en France qu'au Québec. Je pense que sont même, pour ce qui est de Hachette, c'est pas toujours le cas des autres romans, des pockets ou des BD, etc. Mais pour ce qui est des bibliothèques vertes et bibliothèques roses chez Hachette, sont même disponibles dans les grandes surfaces. C'est disponible en France au coût de 5 euros. Au Québec, je pense que c'est autour de 7,95, quelque chose de même. Ouais. Là. C'est ça. Des petites lectures rapides, des beaux cadeaux pour les jeunes filles et tous les papas comme moi qui veulent initier leurs enfants à Star Wars. Donc, il faut aller chercher leur point d'intérêt. Et avec Force du Destin, c'est les héroïnes de Star Wars. Ensuite, on va passer à notre avant-dernière section d'émission, donc notre 3e sur Force du Destin, la BD, donc le recueil de comics publié chez Delcourt. Dans le fond, on est sur un format là, moyen, un peu comme Star Wars Aventure, par exemple, chez Delcourt, ou toutes les Marvel chez Panini. Et non sur le format plus grand, là, comme on voit chez Delcourt aussi souvent, là, par exemple, les adaptations jeunesse des films, ou de format un peu plus Astérix, Tintin, etc.
Mais sont un peu plus grosses et épaisses que
plus les épais, aventures. Effectivement. Donc, un recueil de 5 comics. Peut-être on pourrait mentionner dès le départ que c'est des équipes de production entièrement féminines. Chaque comic, c'est une équipe différente. Tu vois, au scénario, au dessin, couleur. Dans les 5 cas, c'est toujours uniquement des femmes, donc clairement, ouais. Il y a comme un projet de discrimination positive, on va dire. Et là, contrairement au livre de chez Hachette dont on vient de parler, là, ici, on est sur du nouveau contenu. En tout cas, peut-être pas à 100%, mais au moins un bon 80%.
Je crois que toutes les histoires sont nouvelles, sauf une sur Famé et Asuka. Et on retrouve la même histoire de tantôt avec la métamorphe, sauf qu'il rajoute un avant l'histoire.
Dans le fond, peut-être la moitié du comic, c'est du nouveau.
Oui, oui.
Puis la fin, c'est l'histoire qu'on a déjà vue sur YouTube. Ouais.
Il rajoute quand Panmi demande à Asuka si elle peut l'aider pour son truc politique.
On a aussi un des 5 comics qui est sur Ré. Là, je dirais que c'est une espèce de compilation de plusieurs épisodes de la série Force du Destin. Oui. Parce que c'est ça, on retrouve là, au moins, j'ai l'impression, 3 émissions faciles.
Celui-là sur Ré, on le voit en truc sur YouTube et on le retrouve aussi dans un livre.
Comme tu disais, là, c'est sûr que c'est la troisième fois qu'on le voit. Mais sinon, on a 3 histoires, sans les 3 autres, on est dans le 100% inédit.
Oui.
Donc, une première sur Léa. Bon, on vous donnerait bien un titre, là, mais ils n'en ont pas. Oui. donc, c'est vraiment juste intitulé Léa, Force du Destin, Léa.
Une sur Hera.
Ouais, ben, on peut effectivement peut-être les nommer tout de suite. Une autre sur Hera et une autre sur Rose et Paige. Donc, les deux héroïnes, deux sœurs. Des derniers Jedi qu'on a découvert dans les derniers Jedi.
Donc, celle-là est très intéressante parce qu'on les connaît vraiment absolument pas, ces personnages-là.
Ouais, ben il y avait eu un roman sur leur relation de sœur un peu dans, comment ça s'appelait, c'était Cobalt Squadron dans la série là, Route vers les derniers Jedi.
Okay.
Mais il n'est pas encore disponible en français. Fait que c'est pour ça, ma grande, que tu le connais pas. Sinon, effectivement, c'est dans les premiers contenus qu'on a là, sur Rose et Paige.
Ouais.
Mais on va en parler en dernier, vu que c'est le dernier. On va commencer par Leia, qui est une aventure de Leia sur Hoth. Leia qui se met dans le trouble un peu. Quand je disais tantôt que l'épisode avec Hera avait surpris, ben là, encore une fois, on a Hera dans la rébellion sur Hoth. Donc, elle a été présente à un moment donné sur la planète glacée. On a Leia qui chevauche des tonnes là, de façon gracieuse, on va dire. Là. Comme s'il était sur Alderaan là, dans une parade. Mais bref, c'est ça, il lui arrive quelques péripéties. C'est un peu sur le rôle de leader, le poids qu'elle a sur les épaules, les responsabilités qu'elle a comme chef dans la rébellion. Bref, c'est ça. On a Anne, on a Hera là,
qui vient dans son secours.
Ouais, ben c'est ça. Comme d'habitude, elle se met un peu dans le trouble et puis...
elle s'en sort.
Ouais, comme d'habitude aussi, c'est ça. Elle arriverait peut-être plus ou moins à s'en sortir sans eux. En tout cas, disons qu'elle participe grandement à s'en sortir. Un peu comme dans l'épisode 4 là, où elle vient se faire secourir par Luke et Anne, mais elle participe pas mal à son évasion.
Oui.
Une histoire quand même intéressante. On a encore un Wampa là-dedans. J'ai trouvé que c'était sympathique, c'était intéressant. C'est dans le même style que les autres BD publiés chez Delcourt qui s'appellent juste Aventure. Donc des histoires relativement courtes et légères qui apportent pas de quoi d'énorme au canon, mais qui vont peut-être intéresser les plus jeunes. Tu sais, c'est quand même du moins lourd, moins de dialogue, des affaires moins complexes, là, des intrigues qui s'étirent sur plusieurs BD. Là, tu sais.
Ouais.
Là, on est dans les histoires courtes assez simples.
Ben, moi, je vais en dire quelque chose pour celui-là de Leia.
Ouais.
Moi, j'aime pas tant les graphiques.
C'est, comme on a précisé tantôt, c'est des dessinateurs différents à chaque BD. Là, cette fois-ci, on est dans un style peut-être un peu pas si éloigné des dessins là, de la série sur YouTube, mais en plus comics un peu. Effectivement, soit on aime, soit on aime pas.
Ouais.
Toi, t'aimes moins?
Ouais. Et on voit aussi l'apparition de Darth Vader.
Ouais, on a un petit extrait dans celle-là de Vador avec dans son vaisseau.
Non,
à ce moment-là, Tarkin est mort, mais c'est... Es-tu nommé Amiral Ozzel? On va supposer que c'est ça, juste avant l'Empire contre-attaque. Quand même une petite lecture le fun, intéressante. Bon, ensuite, on a cela sur Ré, on en a parlé tantôt. On peut peut-être préciser le changement au niveau graphique. On est beaucoup plus dans du cartoon. Hein, tu sais, ça ferait très dessin animé.
Ben, quand on regarderait, elle a l'air vraiment très jeune.
Ouais, ouais, effectivement, elle a l'air plus jeune que dans...
Elle a l'air comme une enfant, mais à ce moment-là, elle est une adulte.
Ouais, ben dans le fond, ça se passe juste avant l'épisode 7.
Ouais, là, c'est ça, sauf qu'elle a vraiment de l'air d'être enfant-adolescente.
Mm. Bref, c'est ça, c'est du déjà-vu, pas mal, celle-là. Ensuite, en troisième, on a celle sur Hera. Un autre changement graphique là, assez distinct. Ouais, une histoire. Ouais, ouais, t'aimes mieux ces graphiques-là.
C'est vraiment beau.
Un style peut-être un petit peu plus réaliste, on va dire. Moins cartoon, puis plus. On se rapproche un peu plus d'un style à la Rebels, la série
dans
Rebels.
Dans celui-là d'Hera, je trouve que les traits de caractère des personnes sont beaucoup plus précis que dans celui-là de Leia.
Oui, c'est vrai, t'as raison sur les visages. Là.
Oui.
Puis n'empêche, c'est quand même bien au niveau des vaisseaux, des infrastructures, parce que des fois, t'as des dessinateurs qui sont nuls pour un, qui sont excellents pour l'autre.
Ouais.
Là, je trouve que c'est quand même très bien équilibré. On est dans un style comics quand même, là, au niveau des interactions, des bulles, etc.
Oui.
Une histoire 100% inédite, celle-là. On pourrait résumer dans le fond que c'est Hera qui va aider des rebelles locaux sur une planète et puis qui recrute pour la rébellion. Et une histoire d'aide humanitaire, d'aide
de délivrance.
De l'Empire essaye de taxer là, toutes les réserves de nourriture de la planète. Fait que c'est ça. Évidemment, il provoque encore une fois de la rébellion.
Ouais.
C'est intéressant, on a un alien que je ne connaissais pas. Peut-être que mon collègue Tom, grand spécialiste des aliens pour Star Wars en direct, pourrait me dire c'est quoi cette race-là. Mais on pourrait dire que c'est une espèce de loutre.
Oui, on dirait vraiment une loutre.
Une grosse loutre, là, mais humanisée un peu, ou en tout cas... qui parle et qui se tient debout.
Qui a des bras.
Ouais, c'est ça. Le style... au début, j'allais dire castor, mais je pense que c'est plus loutre, là. Ouais.
Vraiment au niveau de la tête, là.
Vraiment,
qui ont juste pris une tête de loutre puis ils ont mis ça sur un corps du même avec des poils.
Encore une fois, on a la présence, par contre, là, sur la planète. C'est vraiment une planète avec des humains, avec plein d'espèces aussi, plein d'autres espèces d'aliens. Oui. Fait que bref, Thomas, que, si t'écoutes cette émission-là, tu vas vouloir voir ce comics-là, là, parce que c'est plein d'aliens, je sais que t'aimes ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait à dire de plus là-dessus? C'est quand même une petite histoire sympathique, pas trop tirée par les cheveux. Parce qu'évidemment, souvent, plus on tombe dans le matériel jeunesse, plus c'est tiré par les cheveux, exagéré. Là, j'ai quand même trouvé que c'était bien. Les motivations des rebelles sur place, puis à l'inverse de ceux qui veulent rejoindre Hera.
Dans ceux-là, là, dans les comics là, de Force du Destin, on voit que des... Quand on parle de l'Empire, des Générales, tout ça, on voit que des personnes qu'on n'a jamais vues. En tout cas, que moi, personnellement, j'y connais pas.
À part Vador, peut-être?
Oui, à part Vador, mais tous ces Générales, ça sera jamais... Oui, ces Généraux, ce sera jamais un qu'on connaît.
T'as raison, on voit pas les autres grands vilains à part Vador. On voit des Stormtroopers, des... Ouais, t'as raison, c'est vraiment pas autour des vilains. Comme c'est une série pour les filles, peut-être qu'on aurait pu avoir Asajj Ventress.
C'est vrai, ça m'étonne vraiment qu'il ait pas mis un vidéoclip sur elle.
Ouais, ben c'est sûr que là, peut-être que c'est parce qu'il fallait que ce soit positif aussi comme modèle pour les jeunes filles. Oui,
mais admettons, il aurait pu mettre un où ce qu'à la place de ton Ahsoka, à la place de se retrouver contre un ennemi pour sauver la famille, mais ça aurait pu être qu'elle se retrouve contre Asajj Ventress, ça aurait été vraiment intéressant.
Ou encore la Asajj repentie qui aide Ahsoka, parce que Asajj tourner le dos côté obscur et
devenir...
Sans vraiment embrasser la lumière, on va dire. À la fin, elle est plus chasseur de primes.
Ouais.
Et,
un peu comme Ketsune, des choses comme ça.
Dire contrebandière, on pourrait dire.
Ouais.
La Mandalorienne.
Ouais, la Mandalorienne, amie de Sabine, qui est du côté encore du Soleil Noir, mais qui aide de la rébellion, mais qui n'est pas à la avec la rébellion. Là.
Mm-hmm. En fait, sur l'histoire suivante d'Ahsoka et Padmé, comme on expliquait tantôt, ça se finit sur la même fin là, qu'on a déjà vue sur YouTube.
Oui.
Mais ça commence par contre sur un entraînement dans le temple entre Ahsoka et Barriss. Donc, elle, on sait qu'elle va finir par...
virer.
Ouais, virer. Je sais pas si on peut dire qu'elle se convertit pas vraiment au côté obscur, c'est juste qu'elle elle voit que l'ordre est manipulé, etc. Par contre, elle organise un attentat, puis elle s'arrange pour faire accuser Ahsoka.
Oui.
Donc, que... mais je suis pas sûr qu'on peut dire qu'elle a tourné du côté obscur, ça, c'est pas tout à fait ça. Ouais, fait qu'on a Barry Sophie, qui... il me semble que c'est ça, Offie. Qui se pratique là, au sabre laser contre Ahsoka. Fait que l'histoire est quand même beaucoup plus longue que ce qu'on voyait dans YouTube, sur YouTube. Tu sais, on a toute une histoire avec les dames de compagnie, là, les aides de camp de Padmé. Mais c'est ça, ça se finit, on connaît la fin. Ça se finit que, avec la métamorphe là, qui essaye d'attenter à la vie de Padmé. Parce que c'est en quelque sorte un genre de sport national sur Coruscant. La tentative d'assassinat de Padmé. Pour revenir à la BD, ensuite on a Rose et Paige, donc histoire intéressante. Encore une fois, on change totalement de registre visuel. On est dans un style...
graphique japonais.
Ouais, peut-être plus animé, là, japonais, là, les grands yeux. Puis, je peux pas... C'est pas laid. Sur certains visages, je pense entre autres à la générale Leia.
Ça fait...
c'est bizarre un peu.
Extrêmement bizarre, mais ouais. Pour... Rose et Paige, surtout que dans ce comic-là, ils sont encore jeunes.
Mm-hmm.
Ça fait bien.
Peut-être préciser avant tout que c'est un scénario par Delilah S. Dawson. Ceux que le nom leur rappellerait quelque chose, c'est parce que c'est pas ses premières œuvres dans Star Wars, dans le canon. C'est celle qui a écrit l'excellent livre Phasma, qui était sorti il y a un certain temps, qui avait quand même eu des bonnes critiques. Elle avait écrit aussi plusieurs nouvelles... jusqu'ici, avait participé au recueil là, de nouvelles From a Certain Point of View, aussi qui était sorti. Et pour l'année 2019, elle est à la barre du livre dérivé, si on peut dire, des parcs que Disney s'apprête à ouvrir. Oui. Donc le titre est Galaxy's Edge Black Spire. Livre qui personnellement m'intéressait zéro parce que je le voyais vraiment comme un pur produit dérivé là, pour vendre le parc. Mais finalement, l'histoire s'annonce très bien et on a le retour de personnage de son premier livre, Phasma. Donc, je ne veux pas faire dans le spoilers ici, mais si vous avez lu Phasma, vous vouliez une sorte de suite, ça semble s'enligner un peu pour ça avec Galaxy's Edge Black Spire, donc de Delilah S. Dawson. Fait que pour revenir à ce petit comics-là, ça se passe sur Dekar, donc la base de la résistance là, qu'on voit dans l'épisode 7 et au début de l'épisode 8. On a la résistance qui a des petits problèmes de ressources et Paige encourage Rose à utiliser toute son ingéniosité pour développer des véhicules à partir de la scrap, donc à partir de ferraille, de vieux morceaux, là, de vaisseaux brisés de la résistance. Et Rose finit par accoucher de véhicules à roues, ce qui est... peut-être une première dans le canon Star Wars, en tout cas. Ben non, on avait les turbo-tanks de la République, là, les méga... Oui.
Mais je sais.
Des espèces de jeeps
comme ça, là.
Ouais. Des genres de tout-terrain pour la jungle de Dekar.
Moi, ceux qui connaissent, là, je trouve qu'on dirait les jeeps de Halo.
Oui, un peu les Warthogs dans l'univers de Halo. C'est pas si éloigné, effectivement. Fait que dans le fond, le personnel de la résistance en revient pas qu'elle aille accoucher, qu'elle leur vende des véhicules avec des roues. Mais à part à l'aventure, si on peut dire, avec ces véhicules-là, parce qu'elle en a bâti deux.
Un pour elle, un pour sa sœur.
Puis ils partent dans la jungle de Dekar, qui, on s'entend, là, pas vraiment exploré encore. Pas très connu de la résistance. Ils tombent sur des animaux sauvages dans cette jungle-là. Des drôles de mélange d'autruches et du coup, des autruches avec des grandes barbes, peut-être, je sais pas comment. Oui. Des grandes oreilles et des grandes barbes.
Ils sont séparés, me semble-t-il.
Ouais, effectivement, ils se retrouvent. Rose et Paige se retrouvent séparés. Bon, on fera pas toute l'histoire, mais au final, évidemment, vous comprendrez que ça se termine bien parce que ça se passe juste avant l'épisode 8, où est-ce que Paige est dans son bombardier. Au final, Rose finit par découvrir un gisement de métal important, ou en tout cas qui peut être d'une grande importance pour la résistance, qui peut être échangé, je crois, contre du financement, évidemment, des ressources. Donc, elle prouve l'utilité de son invention, puis de son exploration, etc., aux grandes dames d'un général de la résistance là, qui n'arrêtait pas d'être sur son dos. Donc, évidemment, la morale, c'est ça. C'est de croire en tes convictions ou en tes ambitions, etc.
Moi, j'aime bien les graphiques, mais vraiment, pour Leia, là, c'est laid, là.
Ouais.
Mais elle a de l'air vraiment blême. En plus, c'est long, comme pas bronzée et blanche.
La difficulté de ce style de dessin-là, je pense, c'est de représenter l'âge sur les visages. Tu sais, les rides, etc. Alors que c'est souvent des dessins beaucoup plus vides là, au niveau texture. Donc, effectivement, ils l'ont fait plus blanc, ils ont mis quelques rides. Mais ouais, c'est clair que les représenter des visages d'actrices qui existent, c'est peut-être pas sa force. Là. Ça, je suis assez d'accord.
Mais il aurait quand même pu la mettre un petit peu plus bronzée parce que.
Ben là, je sais pas, faudrait que j'écoute l'épisode 7 et 8 là, pour étudier le teint de peau de Leia. Là.
Ouais, mais là, il me semble que tu regardes les films, mais pas. Blanche comme ça. Pas bronzée, mais pas blanche comme un vampire. Là.
Ouais, non, effectivement, c'est assez évident.
Oui.
Sinon, après, ça c'était pour les 5 comics, et après, on a quand même une douzaine de pages peut-être. Que c'est tout ils appellent ça galerie d'illustration. C'est souvent le cas dans les albums hein, chez Delco.
Oui.
Et on a toutes les couvertures alternatives.
Qui ont hésité à prendre.
Ouais, c'est ça, que les variantes. C'est un peu une tradition dans le comics là, d'avoir plusieurs couvertures. Des styles vraiment là, très différents un de l'autre.
Ouais.
On en a encore une fois avec les dessins vraiment version là, YouTube.
Oui.
Mais. On en a des super beaux. Là. Moi, j'aurais adoré avoir ces dessinatrices-là à la barre des comics. Fait que, bref, on vous invite à aller voir ça. Je trouve qu'il y en a que c'est des petits bijoux. Là. Ça ferait des très belles affiches à agrandir puis à faire un gros poster là, sur un mur.
Ouais.
Fait que pour revenir à la BD, celle-là, si tu avais une note à lui donner sur 10, tu lui donnerais combien?
Je lui donnerais 7 sur 10.
7 sur 10 quand même. Celle-là, contrairement aux 4 livres, là, celle-là, moi aussi, je l'ai lu. Je lui donnerais quand même un bon 8 sur 10, certain. Évidemment, ça s'adresse au public de ces BD-là chez Delco, un peu les mêmes qu'Aventure.
Oui. La couverture non plus n'est pas super belle. Il aurait pu en mettre une vraiment plus belle.
Ouais, hein, ils ont comme fait un melting pot des dessins de plusieurs dessinatrices.
On dirait qu'ils ont les yeux vides.
Ouais, ouais.
C'est bizarre.
On a aussi là, des versions comme sur YouTube, dans le fond. Là.
Ouais.
Mais ouais, je suis d'accord avec toi. La couverture, ça passera pas à l'histoire.
Non.
Mais pour le reste, je trouve que ça ferait vraiment un beau cadeau, plus que les livres de Hachette.
Ouais. À part pour les petites histoires qui se répètent, qui auraient pu changer, là, un peu, en inventant une nouvelle aussi.
Effectivement, c'est ça. On a, sur 2 des histoires, sur 3, on a des éléments déjà vus.
Ouais.
Mais,
comme il aurait pu mettre une autre fin à celle-là de Panini.
Mais tu sais, on a quand même, pour le reste, on a du contenu exclusif, là, donc qui n'était pas dans les livres, qui n'était pas sur YouTube. Donc,
ils sont très bonnes, les histoires aussi.
Ouais, c'est le fun, tu sais. Celle sur Hera, parce qu'on a vu Hera dans d'autres comics, mais tu sais, c'est toujours un rôle secondaire.
Ouais.
Et puis dans Rebels, ben, à quelque part, l'histoire tournait pas autour d'elle tant. Là. C'était
elle tournait
peut-être plus sur
Ezra,
Sabine. Ouais, du groupe.
Ouais, du groupe. Là.
Mais là, vraiment, c'est le fun d'avoir comme un numéro là, spécial sur elle.
Ben, moi, je trouve que sur Hera, il devrait faire peut-être une BD ou quelque chose comme ça.
Ouais, une série de BD, ce serait.
Un livre ou une série vraiment juste concentrée sur elle, sur ses aventures à elle, ce serait vraiment le fun.
Ben oui, parce que c'est un personnage que, personnellement, j'appréciais pas tant à l'écoute de la série Rebelle. Moi, ce qui me l'a fait beaucoup apprécier, c'est la lecture du livre Une Nouvelle Aube, où est-ce que c'est vraiment l'histoire de la rencontre Kanan et Hera. Et c'est Hera qui recrute, on va dire, un peu Kanan dans la rébellion.
Ben, moi, j'ai une question sur ce livre-là, parce que je l'ai pas lu. Est-ce qu'ils sont amoureux dans ce livre-là?
Non, pas vraiment amoureux. Ils s'attirent. Là,
okay, okay.
Dans le fond, là, Kanan ne rejoint pas Hera par conviction politique. Il la rejoint parce qu'il la trouve de son goût au niveau personnalité.
Okay.
Donc, comme dernier droit de notre émission spéciale sur Force du Destin, on va parler des produits dérivés, si on peut appeler ça comme ça, même s'il était prévu dès le départ, là, comme on expliquait en début d'émission. À savoir les figurines. Je sais pas s'il faut dire figurines ou poupées. En tout cas,
c'est comme des Barbie.
Ouais, format Barbie, dans le fond. Là.
Ouais.
Format grande figurine. Quand même une bonne palette, là, une bonne collection. Ouais. Ça va de Jin, Rey.
Ils ont aussi souvent, à part Jin et Sabine, et Ahsoka, ils ont plusieurs, font la même poupée, mais en plusieurs tenues différentes.
Ouais, c'est vrai, on a Leia en version Endor, qui venait, je crois, avec Wicket et avec sa tenue, autant la tenue commando rebelle que la tenue que les Ewoks lui donnent dans un épisode.
C'est super intéressante, on peut l'habiller.
C'est le même concept que Barbie, changer. Dans le fond, c'est ça. Oui, tu peux changer les vêtements. Puis,
Mais avec des armes.
Ouais, une Barbie avec des armes. C'est ça, on a Leia version Endor, on a Leia version Hot. On a évidemment Chewbacca qui se ressemble pas tant, mais c'est peut-être à cause du format. Tu sais, tous les longs poils font peut-être là, que ça ressemble un peu moins. Évidemment, on a Ahsoka, on a Sabine. On a plusieurs Rey. Ouais, hein, au moins deux ou trois.
On a Rey dans son costume du 7e film. On a Rey dans son costume quand elle s'entraîne avec Luke.
Mm-hmm.
Et on a Rey dans son costume à la fin là, des derniers Jedi. Là.
Oui, en fait, c'est ça, il venait, c'est le dernier qui semble être sorti là, de la collection
tout récemment.
Pour le film Les Derniers Jedi, puis il venait en combo avec la figurine de Kylo Ren. Ouais. Parce qu'il y a quelques mâles aussi dans la collection, on a parlé de Chewbacca, il y a Luke aussi, on a parlé d'épisodes tantôt avec Luke, avec Yoda, pour s'entraîner avec Yoda. On a Padmé en costume de pilote, donc ça fait référence à l'épisode où elle s'entraîne
d'ailleurs,
avec Ahsoka.
Padmé... Je crois que c'est sa seule poupée sur elle.
Je pense que tu as raison, effectivement. Il n'y a pas d'autre version de Padmé. C'est dommage parce que c'est un personnage qui aurait pu avoir plein de costumes, plein de tenues différentes. Là.
Comme sa costume, version... son costume de reine. Là.
Ouais, reine Amidala.
Il y a aussi les droïdes qui sont vraiment super bien.
Ouais, il y en a qui venaient avec R2-D2, avec BB-8, dans le cas de Rey. Moi, j'aime bien l'armure quand même
de Sabine.
De Sabine avec le casque mandalorien, etc.
Ouais, je sais pas si on peut y mettre son casque.
Oui, je l'avais vu sur une photo qu'elle l'avait sur la tête. Je vois même un Lot 4 sur une des photos, là, l'espèce de chat sur Lothal dans la série Rebelle.
Avec Ahsoka.
Qui était devenue la petite créature... préféré jusqu'à ce que Rian Johnson invente les porgs. Mais il avait commencé à sortir des toutous aussi, des Lot 4 là, et compagnie.
Ouais.
Et ça, c'était pour les figurines.
Oui.
Comme on disait tantôt, le but étant de cibler les jeunes filles. Mm. Bon, c'est ça. Au lieu d'avoir des petits bonhommes puis des Legos, des choses comme ça, on va avoir le style un peu plus Barbie avec des cheveux et des tenues vraiment en tissu.
Moi, je trouve qu'ils ont bien marché. Ça a bien marché, ça.
Mm-hmm.
Parce que, contrairement aux Barbies, tu sais, les Barbies sont toutes parfaites, c'est des madames, tu sais. Sauf que ça, c'est plus le fun. Tu peux leur faire des trucs d'aventure, tu peux les faire se battre comme toutes.
Moi, comme dans Star Wars.
Ouais, j'aime mieux ça que les Barbies.
Ouais, effectivement, t'as jamais eu aucun intérêt pour les Barbies.
Sauf Ken. Mm-hmm. Et Barbie.
Ouais, c'est ça. Ah, ceux de Histoire de jouets, là.
Ouais.
Ouais, ça, c'est parce que dans le film, ils sont drôles. Sinon, il y avait aussi quelques armes, en fait. Je pense qu'il y en a juste eu deux. Il y en a un, c'est très logique, c'est le bâton de Rey. Tu sais, vraiment, avec le tag Star Wars Force du Destin. Donc, je pense qu'il peut s'allonger, là, ou en tout cas, il y a comme des sections. Là.
Oui, il y a plusieurs sections.
Que, pour un costume d'Halloween, ça peut être parfait, là.
Ouais.
Par contre, il y a une deuxième arme qui était disponible, c'est un sabre laser violet.
Oui.
En tout cas, le seul qu'on a connu avec un sort violet, c'était Mace Windu, qui n'est pas dans la série Force du Destin du tout. Et ça vient avec au lieu d'être un sabre, c'est un petit couteau. Un genre de couteau à beurre laser.
Ouais.
C'est un poignard.
Mais ça vient aussi avec un petit truc mauve.
Je sais pas, c'est peut-être pour les connecter ensemble. Là. C'est comme une mode là, dans les jouets de sabre laser de faire des bizarres.
Ils font des grosses boîtes là, où que tu peux te connecter plein de sabres. Tu peux te faire un gros sabre avec genre 30 lames.
Ouais, ça semble être ça, mais bref, ça fait pas référence à aucun épisode ou à rien.
Non. Ils l'ont peut-être juste mis parce que c'est les sabres de couleur mauve. C'est les sabres normales qu'on voit en vente. C'est bleu, rouge, vert.
Ah ouais, pour qu'il y ait... ou mauve, pourvu que c'est pour filles. Il aurait fallu qu'il en fasse un rose-rose, tu sais, rose Barbie.
Oui, ça aurait été vraiment beau.
Peut-être que le story group les a pas laissé faire. Là.
Peut-être.
Pour cette gamme-là, toi qui es... Parce que je suis pas vraiment le public cible. comprends, pour ce produit-là. Oui. Toi, qui es le public cible, ou en tout cas, qui l'était peut-être là, il y a quelques années, quelle note tu donnerais là, à ces jouets-là?
9 sur 10.
Ah ouais, tant que ça.
Voire 10 quand sur même. 10. Oui, je les ai.
Ah, la perfection. Oui. Ben, c'est vrai que pour le but, pour l'objectif visé, c'est réussi.
Oui, mais je les aime beaucoup. Moi, j'en ai deux à date. J'ai Leia sur Andorre. Puis j'ai Jin aussi.
Ça fait des belles petites pièces de collection là, pour décorer une chambre de jeune fille fan de Star Wars. C'est ce qui fait le tour de la gamme, on va appeler ça comme ça, Force du Destin. Donc, épisodes sur YouTube, livres jeunesse, comics et jouets plus ou moins dérivés. C'est quand même une expérience, on va dire, chez Lucasfilm intéressante, qui visait un public nouveau. Donc, nécessairement, qui a brisé certains codes Star Wars. Je suis pas du tout au courant des objectifs internes qui s'étaient mis, les chiffres de vente des jouets, etc. Mais moi, je pense que, somme toute, la qualité était quand même pas pire là. Mm. Clairement, c'était pas un projet à grand déploiement comme, je sais pas, la série de Mandalorian à 100 millions. Là, qui s'en
non,
vient.
Ouais.
Globalement, si on fait le total des quatre catégories, on va dire, c'est quand même pas si mauvais. Ceux qui auraient pas la moindre idée, ou mettons qui avaient juste pris le premier épisode de Force du Destin puis qui avaient jeté ça en se disant c'est pas bon, c'est pour les enfants. Ben, je pense qu'on vous a parlé de certains produits
si
qui valaient peut-être la peine.
Une chose qui vous vaudrait vraiment, vraiment la peine, c'est la BD.
Ouais, la BD, je trouve qu'elle est de calibre des Marvel qui sortent chez Panini. Elle est vraiment là, meilleure au niveau calibre que les Aventures.
Ouais,
les Star Wars Aventures.
Et aussi, moi j'espère juste qu'ils n'arrêtent pas ça, là.
Mm-hmm.
Je trouve qu'il y aurait quelque chose de bien à faire avec ce projet-là.
Il resterait d'autres contenus peut-être à explorer.
Ouais.
Ben écoute, on va se le souhaiter. On va se le souhaiter parce qu'il y a certainement d'autres jeunes filles qui vont passer après toi et qui aimeraient découvrir Star Wars, eux autres aussi. Donc on va souhaiter qu'eux autres aussi soient ciblés par Lucasfilm éventuellement. Donc, c'est ce qui met fin à notre émission spéciale sur le concept de Force du Destin. J'espère que vous avez apprécié l'émission. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez nous rejoindre aussi par email à studio@starwars.direct. On rappelle qu'on est en recrutement au Québec, donc si vous êtes intéressé, simplement allez sur le site, là, il y a un onglet exprès pour ça. On rappelle aussi que vous pouvez vous procurer des t-shirts et en Europe des mugs aussi. À l'effigie de Star Wars en direct.
Ouais.
Donc, faire de la publicité un peu au podcast. On est présent sur plusieurs plateformes. iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitchers, Google Play, Google Podcast, Apple Podcast. On remercie nos partenaires. Donc, Mint Inbox, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planet Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show et Génération Star Wars et Science Fiction. Au nom de Tamara et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.